qu'on produit. Pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la FRAPNA.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Jean-Michel Bertrand, réalisateur de plusieurs très beaux documentaires sur les loups, dont « Vivre avec les loups » qui sort le 24 janvier. Et c'est la deuxième partie de notre entretien. Pour rappel, la première partie est passée sur les ondes en décembre et est réécoutable en replay sur le site de Fréquence 7, fréquence7.net. Donc Jean-Michel Bertrand, la dernière fois, vous nous avez beaucoup parlé de votre intérêt pour les loups et des liens compliqués qu'ils entretiennent avec les humains. Donc justement, comment vous expliquez qu'il soit si polémique, si problématique en France, alors qu'il y a des endroits, vous citez l'Italie dans le film, par exemple, avec le parc national des Abruzzes.
Je cite les Abruzzes.
Oui, les Abruzzes. Mais je crois, enfin, il me semble savoir que d'une manière générale, même s'il y a aussi des heures et que c'est loin d'être tout rose, en Italie, ça se passe quand même un peu mieux qu'en France, en Espagne aussi, je crois. Alors qu'en France ou en Suisse, que vous citez aussi dans le film, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que il y a un rapport avec le fait qu'il a disparu pendant plusieurs dizaines d'années en France et en Suisse, alors qu'en Italie et en Espagne, il est resté présent et que du coup, la population a pas désappris à faire avec. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible ou...
Ah ouais, on est complètement là-dedans. C'est pour ça que quand on parle de l'Italie, on parle des Abruzzes, des Apennins, là où les loups n'ont jamais disparu. Voilà. Mais si vous allez en Toscane... aujourd'hui, ou dans les Piémonts, vers Cuneo et autres, où le loup est revenu, comme chez nous en France, depuis 20 ou 30 ans, on a le même stress.
D'accord.
On a les mêmes problèmes, on a la même hystérie. Donc on se rend, voilà, pour aller dans votre sens, on se rend vraiment compte que c'est lié à cette habitude. En Espagne, les régions dans lesquelles il y a toujours eu des loups, c'est pareil, ben, il s'est pris avec une forme de philosophie, puis il y a un savoir-faire. C'est-à-dire les fameux chiens de protection, ben, ils sont sélectionnés depuis des millénaires, on sait faire avec. Au niveau de l'élevage ovin, ben, on fait beaucoup de brebis laitières, c'est-à-dire que des brebis laitières, ben, on les rentre tous les soirs pour les traire, les troupeaux sont moins importants, donc c'est plus pratique au niveau du prédateur plutôt que des troupeaux immenses de brebis à viande, par exemple. Mais il faut bien voir qu'il faut pas dire l'Italie, l'Espagne, c'est vraiment les régions.
C'est pas un pays.
Voilà, c'est pas un pays. Et par exemple, en Espagne aujourd'hui, on a des trucs hyper intéressants, c'est que les loups n'ayant jamais disparu, étant quand même très nombreux, hein, plus de 2000, on avait une chasse aux loups, c'est-à-dire qu'il y avait de la chasse comme la chasse chez nous en tant que gibier. C'est-à-dire qu'il y avait des médailles ou des bracelets, comme on dit, hein, c'est-à-dire un quota. On pouvait tuer 10 loups ici, 3 loups là, un autre là, et puis pour maintenir l'espèce. Mais c'était pour le plaisir, pour la chasse. Et là, les Espagnols se sont rendus compte que ces prélèvements mettaient pas mal de bazar. Parce qu'en fait, ça crée ces mouvements incessants dans les meutes. Alors on dit ça déstabilise et tout. C'est pas ça les. Il faut pas non plus le prendre de façon trop au pied de la lettre. Mais ça a un impact. Et ces animaux qui sont hyper sophistiqués, qui sont hiérarchiques en famille, etc. Ben quand vous en enlevez, vous créez des appels d'air et vous créez des mouvements un peu merdiques. Et en fait, au plus vous en tirez par-ci par-là, ben au plus vous créez de mouvements et d'opportunités de jeunes loups, que j'appelle les petits loups-bars, là, ces jeunes loups subadultes, qui vont aller au plus facile parce qu'ils sont pas équipés au niveau groupe, parce qu'ils sont paumés, et ils vont être opportunistes. Donc en fait, en Espagne, ils ont décidé d'arrêter de chasser les loups. Donc c'est quand même hyper intéressant, mais c'est pas parce qu'ils les trouvaient mignons ou gentils, c'est parce qu'ils trouvaient que c'était plutôt... ça pouvait créer des problèmes. C'est pour ça que moi, au niveau des tirs sur les loups, moi, je ne suis pas contre le fait de tirer un loup, deux loups, des loups qui mettent le bazar et qui s'habituent aux troupeaux et qui vont aller taper dans les troupeaux et qui ont vraiment la technique parce qu'ils sont malins, qu'ils ont pigé, puis qu'ils s'y mettent et qu'ils s'y remettent, etc. et qu'on n'arrive pas trop. Moi, le fait de tirer des loups comme ça me pose aucun problème. Mais en revanche, quand on est dans la régulation, comme on veut l'être en France, avec des quotas de lois tuées, et comme ça va être le cas en Suisse, avec un délire total, là, depuis très peu de temps, où ils veulent éliminer 70% des meutes, là, on crée le chaos total. C'est-à-dire que ce qui est en train de se produire aujourd'hui au niveau des loups, c'est ce qu'on a toujours fait en France avec les renards. C'est-à-dire qu'on tue 600 000 renards par an, à peu près, en moyenne, en France. Les renards sont pas en voie de disparition. Non. Sauf qu'on crée des reproductions multiples, des reconquêtes de territoire, des dispersions incessantes, on crée le bordel. Alors sur les renards, on s'en rend pas tellement compte, quoique l'étude anglaise là sur la maladie de Lyme et sur la pression des renards sur les micro-mammifères et tout, on se rend compte que cet animal, si on le laissait faire sa vie sur son territoire avec sa culture, etc., ce serait plutôt pas mal. Mais au niveau des loups, alors là, ben l'impact est direct. Parce que le fait de créer ces mouvements incessants crée le chaos. Et donc tout ça, c'est du clientélisme, et c'est tout sauf scientifique, sauf rationnel. C'est juste pour soulager un esprit qui est un esprit encore, pour moi, très archaïque, qui prône la régulation. La régulation, elle se fait dans la nature. Les prédateurs se régulent eux-mêmes. Regardez les aigles. Les aigles royaux, ils étaient rarissimes quand j'étais gamin. Il y avait 20 couples dans toutes les Alpes. Ils ont été protégés dans les années 1970, comme tous les rapaces. Aujourd'hui, dans les Alpes, il n'y a plus un seul territoire disponible pour les aigles. Tout est complet. Il y a des aigles qui vont sur le Massif central, le Jura, qui se dispersent un petit peu au-delà des Alpes, évidemment. Mais sur les Alpes, c'est complet. On a eu une montée des aigles, du nombre d'aigles exponentielle pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et aujourd'hui, ça stagne. Parce que les aigles, ils font le ménage entre eux. Mais vu que les aigles, ils emmerdent plus personne, alors avant, soi-disant, ils enlevaient les enfants, enfin voilà, il y a eu des histoires de délire, que moi j'ai eu des coupures de presse, hein, des aigles qui attaquent le facteur, qui s'est défendu courageusement, un héros, enfin des trucs débiles qu'il y avait à fin 19e, début 20e. Aujourd'hui, on s'en fout parce qu'il y a des loups sur lesquels on peut mettre de la haine. Donc les aigles, on les laisse, mais les aigles, ils font leur ménage entre eux, ils font leur vie. Et les aigles, ils ne seront jamais trop nombreux. Parce que un territoire d'aigle, 75 km² à peu près, eh ben, c'est un couple. C'est pas deux ni trois couples. Parce que s'il y a deux ou trois couples, eh ben, ils se feront la guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un couple. Et les loups, c'est pareil. Donc, ce rapport aux prédateurs est tout à fait insupportable. C'est un truc archaïque, mais comme, moi, c'est mon combat, en fait. Mais tout ça en disant très calmement, oui, pourquoi ne pas tirer un loup? Enfin, moi, ça me pose pas de problème. D'éliminer des loups qui posent problème, justement. Mais ces politiques de régulation, parce que ça s'appelle comme ça, c'est lamentable, faut le dire.
Mais justement, le problème, est-ce que il a l'air d'être avant tout culturel, puisque vous dites la psychose qu'il y a aujourd'hui sur les loups, quand il n'y avait pas les loups, elle était sur les aigles. On la voit aussi pour les renards. Il y a une méconnaissance totale de ce qu'apportent ces animaux dans leur milieu. Et pas que des prédateurs, d'ailleurs, hein, y a aussi beaucoup de problèmes avec certains herbivores qui entrent en conflit avec les intérêts humains. Donc ces animaux, en plus de leur rôle au sein de l'écosystème et de la biodiversité, nous rendent service, sans qu'on s'en rende compte. Alors, bien sûr, c'est un plus, hein, c'est un bonus, c'est évidemment pas juste pour ça qu'il faut pas les exterminer. Mais vous citiez les renards, par exemple, et les différentes études récentes qui démontrent que le renard, donc pour ceux qui connaissent pas ces études, elles démontrent que en chassant, en exerçant une pression sur les micro-mammifères, sur les rongeurs, qui peuvent être porteurs de tiques, elles-mêmes porteuses de la maladie de Lyme, mais en fait, le renard est une arme puissante contre cette maladie, à partir du moment où on le laisse tranquille. Donc on a des animaux qui non seulement sont essentiels pour l'équilibre des écosystèmes, mais en plus nous rendent service à nous, humains. Et on s'en rend même pas compte. Est-ce qu'à la base de tous les problèmes, il n'y a pas cette différenciation qu'on a fait et qu'on continue à faire entre l'humain d'un côté et ce qu'on appelle la nature de l'autre ? À vouloir ériger une frontière parfois physique mais aussi métaphorique, oui, qui entre nous et le monde extérieur, entre nous et le reste du vivant, ce qui fait que du coup on n'arrive plus du tout à trouver les liens qu'on a qui nous unissent avec ce vivant, avec ce reste du vivant. On n'arrive plus à vivre avec lui, avec eux, avec les loups en l'occurrence. Donc vivre avec eux, bah, ça comprend aussi, comme vous dites, les tirer hein, quand ils se rapprochent trop près, qu'ils posent trop de problèmes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est culturel? Et dans ce cas-là, comment on fait pour la gagner, cette bataille culturelle?
Ben, moi, j'ai plus rien à dire. Vous avez tout dit. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. C'est ce que je dis toujours. Voilà, c'est exactement ça. Mais cette bataille culturelle, il faut essayer d'aller d'en chercher les racines. Les racines, elles sont pas d'hier ni d'avant-hier. C'est vraiment cette culture judéo-chrétienne qui place l'humain au-dessus de tout. Et qui lui donne tout pouvoir, qui diabolise évidemment la nature et qui donne à l'humain tous les pouvoirs pour contrôler cette nature qui lui fait peur. En fait, c'est une histoire de trouillard au départ. C'est une peur. Et donc ça, c'est très difficile à faire évoluer parce que c'est quelque chose qu'on a en nous depuis des siècles et des siècles. Et c'est vraiment cette culture judéo-chrétienne, en général monothéiste, c'est toutes les mêmes à ce niveau-là, c'est-à-dire d'un humain surplombant et dominant la nature qui est la cause de tout. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est que l'humain est doué d'une intelligence, on va dire, et d'un potentiel incroyable pour fabriquer des choses, pour trouver des solutions pour la technologie. Je veux dire, c'est quand même fou ce qu'on est capable de faire, l'intelligence dont on fait preuve, la créativité dont on fait preuve. En fait, c'est, moi, je trouve ça assez fabuleux. Mais au niveau de la coexistence avec nos voisins sur Terre, mais on est moins que rien. C'est-à-dire qu'on est complètement dans l'ignorance totale. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir technique, technologique, une vraie intelligence technique qui est, ben, voilà, qui n'est plus à démontrer. Et là, on va sur la Lune, on fait, c'est monstrueux, c'est fabuleux, quelque part. Mais, au niveau tout bête de se rendre compte qu'un prédateur ne peut pas pulluler parce que sinon, il aurait plus de ressources et il disparaîtrait. On n'est même pas capable de comprendre ça tellement qu'on est aliéné par des croyances religieuses, culturelles. Et le combat, il est énorme. Et aujourd'hui, on voit bien tout le retour avec les Trump et avec les Bolsonaro et avec tous les populistes, etc. On le voit le retour, l'Argentine récemment. On le voit ce retour. Et c'est pour ça que là, moi, j'ose me positionner politiquement. J'ai été évidemment très déçu par des tas de personnel politique inconséquent, par une certaine gauche, par des écolos qui se déchirent et qui travaillent sur leur ego au lieu de travailler pour la planète et tout ça. Donc moi, je suis très déçu pour ça. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que cette droite et droite extrême, c'est l'expression même de cet obscurantisme, à tout niveau, on le voit. Donc moi, là-dessus, je crois qu'il faut aussi faire très attention quand on va voter. Même si on est déçu, même si on est dégoûté par un personnel politique apathique, peut-être corrompu et tout ce qu'on veut, mais cette droite extrême, et je dis même à partir du centre droit, un tout petit peu plus à droite, on est vraiment dans ce positionnement, c'est-à-dire climato-sceptique, on tape dans la caisse, on continue, et c'est fabuleux parce que ces animaux nous montrent, ces prédateurs, nous montrent de part, c'est pas eux qui nous le montrent, ils sont pas, c'est pas leur intelligence entre guillemets qui va nous montrer ça, c'est leur biologie, leur vie, les équilibres biologiques, la nature nous montre qu'ils arrivent justement à vivre en préservant la ressource, et nous on est là à diaboliser ces prédateurs, à vouloir les détruire, enfin nous, une partie de la population, et en même temps on se rend pas compte qu'on est en train de tous cramer sur Terre. Et on est en train de se bagarrer entre la ville, la campagne, enfin je mélange tout, mais c'est tout à fait ça, cette ruralité soi-disant de bon sens, qui est tout à fait toxique. Moi, je suis rural, je suis né dans les Hautes-Alpes, j'ai toujours vécu dans mon bled, mais je veux dire, je sais très bien que les trois quarts des habitants qui vivent en ville, ils viennent de la campagne, et à l'époque, on est en train de tout massacrer, c'est quand même incroyable de faire de cette pseudo-ruralité un combat contre les soi-disant urbains. Enfin, je trouve ça dingue. Et c'est tout ça, eh bien, c'est quand même sur l'échiquier politique tel qu'on le connaît, c'est quand même toujours les mêmes. Et ça, moi, j'ai envie de le dire, de me positionner là-dessus, même, et je le répète, si je suis très déçu par tout le panel gauche qui est inconséquent. On est bien d'accord.
Alors, bien sûr, on pourrait continuer toute la soirée parce que c'est proprement passionnant. Malheureusement, il y a aussi des timings à respecter, donc on va conclure sur ces paroles de sagesse politique. Merci beaucoup Jean-Michel Bertrand de votre venue. Merci aussi au cinéma Le Navire, au Festival des Rencontres des Cinémas d'Europe et à la Maison de l'Image, grâce à qui cette interview a pu se faire. Je rappelle que votre film Vivre avec les loups sort le 24 janvier et j'encourage bien sûr celles et ceux qui nous écoutent à aller le voir. Quant aux Chroniques du Hérisson, elles reviennent le 9 février. On ira cette fois à la rencontre de l'association Ferme Paysanne et Sauvage, où on parlera encore, mais d'une autre manière, de la cohabitation entre les humains et le reste du vivant, plus spécifiquement dans le monde agricole. Voilà, ça promet aussi d'être une belle rencontre. Jean-Michel Bertrand, je vous laisse le mot de la fin.
Ah ouais, moi ça me passionnerait ça, je veux l'écouter celle-là, parce que justement, la paysannerie, les paysans, là, enfin voilà, il y a des gens aujourd'hui dans ces milieux-là qui ont tout compris à ce niveau-là et qui, voilà. Donc moi là, prochain sujet, ça va me passionner. Et justement, le paysan avec un P majuscule qui se questionne, pour moi c'est et puis qui trouve ses solutions, permaculture, voilà. Enfin, il y a des trucs qui sont absolument incroyables et on est bien bien loin de cette agriculture mortifère. Ben, qui nous fait tous crever, hein. Il faut aller dans les hôpitaux, hein, regarder les cancers. Et puis, il n'y a pas que l'agriculture, il y a la chimie aussi, bien évidemment, mais la chimie avec cette agriculture-là, elle est très, très, très mêlée. Et je crois qu'il faut aussi ouvrir les yeux là-dessus. Donc, très beau sujet en perspective.
Oui, très beau sujet en perspective. Vous avez entendu Jean-Michel Bertrand, alors on se retrouve le 9 février. Merci à toutes et à tous.